Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de 993. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié initialement en anglais en 1934 sous le titre Art as Experience, l'art comme expérience est l'ouvrage majeur de John Dewey en esthétique. Le philosophe pragmatiste américain y refuse de définir l'art par des objets consacrés, des institutions culturelles ou une beauté abstraite. Son point de départ est l'expérience vécue, l'art naît, lorsque les échanges entre un être vivant et son environnement acquièrent unité, intensité, rythme et accomplissement. Dewey examine ainsi la création, la perception, l'émotion, la forme et la critique sans les séparer artificiellement de la vie ordinaire. Il conteste la coupure moderne entre les beaux-arts et les pratiques quotidiennes, ainsi que les oppositions rigides entre corps et esprit, pensée et sensibilité, utilité et contemplation. L'ambition du livre est donc philosophique mais aussi sociale, rendre à l'expérience esthétique sa continuité avec les activités humaines communes et mieux comprendre les conditions qui permettent à l'art de devenir une communication partagée. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, l'expérience esthétique comme épisode unifié et accompli pour Dewey. Une expérience esthétique ne se réduit ni à un plaisir immédiat, ni à une impression subjective devant une œuvre. Elle possède une structure, une situation commence dans une tension, se développe par des interactions, puis atteint une forme d'accomplissement. Une expérience mérite pleinement ce nom lorsqu'elle forme un tout reconnaissable, avec une cohérence interne et une conclusion qui ne ressemble pas à un simple arrêt. Cette unité ne suppose pas l'absence de conflit. Au contraire, résistance, attente, obstacles et reprises donnent à l'expérience son énergie et rendent sensible sa résolution. Dewey distingue ainsi l'expérience intense de la succession dispersée des occupations routinières. Dans une vie fragmentée, on agit souvent sans véritable participation, et l'on passe d'une tâche à une autre sans que les éléments s'organisent en ensemble significatif. L'esthétique désigne au contraire une intégration de ce que l'on fait et de ce que l'on subit. Cette thèse déplace l'analyse de l'objet vers le processus vécu. Une peinture, une musique ou un poème ne produisent pas automatiquement une expérience esthétique par leur seule présence. Leur portée dépend de l'engagement perceptif par lequel leur qualité, leur tension et leur relation deviennent effectives pour quelqu'un. L'œuvre est donc le support organisé d'une expérience potentielle, non une entité esthétique autosuffisante. Deuxièmement, la continuité entre l'art, le vivant et les activités ordinaires. Dewey fonde son esthétique sur la relation active entre l'organisme et son milieu. Vivre implique de rencontrer des besoins, des résistances et des ressources, puis de rétablir un équilibre toujours provisoire. Ce mouvement de désajustement et de réajustement fournit, selon lui, la racine de l'expérience esthétique, le rythme. La tension et la résolution que l'on trouve dans les arts ne sont donc pas des ornements ajoutés à la vie. Ils intensifient des formes déjà présentes dans l'interaction du vivant avec son environnement. Cette continuité permet de comprendre pourquoi une activité ordinaire peut posséder une qualité esthétique lorsqu'elle est menée avec attention, maîtrise et un sentiment de plénitude. Dewey ne confond pas pour autant toute expérience agréable avec une œuvre d'art. Les arts élaborent des matériaux et des techniques afin de concentrer l'énergie de l'expérience, de lui donner une forme perceptible et de la rendre communicable. Son argument vise surtout l'idée selon laquelle l'art serait par nature séparé du monde commun. Les musées, collections et habitudes de distinction sociale peuvent isoler les œuvres de leurs usages et de leurs conditions de production. Dewey invite alors à retrouver les racines de l'art dans les gestes, les rites, les métiers, les fêtes et les perceptions de la vie partagée, sans diminuer l'exigence propre des formes artistiques. Troisièmement, l'émotion et la perception intégrées plutôt que la contemplation distante. L'art comme expérience critique, une conception contemplative de l'esthétique qui demanderait au spectateur de se détacher de ses désirs, de son corps et de ses intérêts. Pour Dewey, la perception esthétique est au contraire une participation active. Regarder, écouter ou lire exige de suivre les relations internes de l'œuvre, d'accueillir ses changements de rythme et de laisser les impressions se développer jusqu'à une compréhension sensible. La perception n'est pas une réception passive de sensations isolées, elle est une activité d'organisation et de reconstruction. L'émotion y joue un rôle central, mais elle n'est pas une effusion privée déposée telle quelle dans l'œuvre. Elle exprime l'unité qualitative d'une expérience en mouvement. Dans le travail de l'artiste, les émotions sont transformées par le matériau, la technique et les contraintes de composition. Dans l'expérience du public, elles sont reprises à travers les formes perceptibles de l'œuvre. Cette analyse évite deux réductions, celle qui ferait de l'art un simple message intellectuel et celle qui n'y verrait qu'une stimulation affective. Pensée, sensation et action y sont inséparables, mais leur place dépend du médium et de la forme. Dewey soutient ainsi que l'intelligence de l'art passe par une attention aux qualités concrètes de l'expérience, plutôt que par l'extraction d'un contenu abstrait supposé indépendant de sa manière d'être perçu. Quatrièmement, la forme artistique comme organisation de tension, de rythme et de matériaux. Chez Dewey, la forme n'est ni une enveloppe décorative ni un schéma imposé de l'extérieur à une matière inerte. Elle est l'organisation dynamique qui fait tenir ensemble les éléments d'une œuvre et conduit l'expérience vers son accomplissement. Les relations entre répétition et variation, attente et surprise, tension et détente, partie et totalité donnent à une œuvre sa cohérence sensible. C'est pourquoi le rythme ne concerne pas seulement la musique ou la versification. Il décrit plus largement le mouvement ordonné par lequel des énergies se répondent et se transforment dans toute composition artistique. Cette conception relie étroitement forme et contenu. Une idée, un sujet ou une émotion ne préexistent pas à leur expression comme un message déjà constitué. Ils prennent une détermination artistique à travers le choix et le façonnement des matériaux mots, sons, pigments, gestes, volumes ou mouvements. L'artiste ne se contente donc pas de déverser une intériorité personnelle. Il travaille les résistances de son médium pour parvenir à une unité expressive. Dewey refuse également d'opposer l'art figuratif à l'art abstrait de manière simpliste. Toute œuvre sélectionne, accentue et organise des qualités, plutôt que de reproduire mécaniquement le réel. L'abstraction peut ainsi être expressive lorsqu'elle rend perceptibles des relations et des intensités que la représentation littérale ne suffirait pas à faire sentir. En dernier lieu, l'art comme communication et la critique comme éducation de l'attention, Dewey attribue à l'art une fonction de communication singulière. Une œuvre ne transmet pas seulement des informations ou des opinions formulables séparément. Elle rend partageable une expérience qualitative en organisant un matériau de manière à ce que d'autres puissent en reconstruire le mouvement. Cette communication n'abolit pas les différences entre les personnes, mais elle crée un terrain d'expérience commun plus profond qu'un accord purement verbal. Elle explique la portée culturelle de l'art et son importance pour une vie collective qui ne soit pas réduite aux échanges utilitaires. Dans cette perspective, la critique n'a pas pour tâche principale d'imposer un verdict d'autorité ou de classer les œuvres selon des règles fixes. Elle doit aider à voir, entendre et sentir ce qui se joue dans une œuvre concrète. Une critique valable éclaire les conditions de production et de réception, identifie les relations formelles décisives et rend l'attention plus précise. Elle reste insuffisante si elle détache le sujet social, moral ou historique de l'expérience perceptive qui lui donne sa force. Dewey s'oppose ainsi au culte d'une culture réservée à une élite comme à une approche qui dissoudrait l'art dans le commentaire extérieur. Son idéal est une culture où l'accès aux expériences riches dépend moins de la possession et du prestige que de conditions sociales favorisant la participation, la perception et la création. En conclusion, l'art comme expérience s'adresse aux étudiants et chercheurs en philosophie, esthétique, histoire de l'art, littérature, pédagogie et sciences de la culture, mais aussi aux artistes, médiateurs et lecteurs qui souhaitent interroger concrètement leur manière de créer ou de percevoir. Sa lecture demande de la patience. Dewey construit son propos par distinction conceptuelle, retour sur les oppositions traditionnelles et analyse des rapports entre expériences. Nature et culture. L'effort est néanmoins fécond, car le livre fournit un vocabulaire précis pour penser l'unité d'une expérience, le rôle du rythme, l'intégration de l'émotion et le caractère actif de la perception. Sur un plan pratique, il aide à ne plus réduire l'appréciation d'une œuvre à une opinion instantanée, à un savoir savant ou à la recherche d'un message. Il invite plutôt à suivre ce que l'œuvre fait à l'expérience et comment elle organise l'attention. Par rapport à des esthétiques centrées sur la beauté idéale, l'autonomie de l'œuvre ou le seul jugement de goût, Dewey se distingue par son ancrage pragmatiste. Il ne rabaisse pas les beaux-arts à des activités ordinaires, mais explique leur force à partir de continuité avec la vie vécue. Cette articulation entre exigences formelles, dimension corporelle, communication et critique sociale donne au livre une place durable. Il pense l'art non comme un luxe séparé, mais comme une intensification organisée des possibilités de l'expérience humaine. Si vous souhaitez soutenir John Dewey, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.